Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Trois Palestiniens tués ces dernières 24 heures en Cisjordanie occupée, là où l'armée israélienne poursuit ses opérations quasi quotidiennes après une série d'attaques en Israël. Le président tunisien limoge 57 juges, Kais Saied les accuse notamment de corruption. La fête de la radio, aujourd'hui et demain, il s'agit de célébrer ce média, initiative de l'ARCOM qui a succédé au USA, au CSA. Regarde dans votre journal sur la naissance des radios libres sous la présidence de François Mitterrand avec son ancien ministre de la Culture, Jack Lang. Le premier tour dimanche dans les consulats de l'élection des députés français de l'étranger, une semaine avant les élections en France. Nous écouterons Aurélie Pirillo, candidate de la droite et du centre aux législatives dans la 10e circonscription des Français de l'étranger. Ce sera demain, vendredi à Nanterre, une conférence intitulée « Législatives 2022, faut-il voter ?» initiative du président de l'association Les Oranges, Mohamed Kaki, que vous entendrez. Trois Palestiniens ont été tués en 24 heures en Cisjordanie occupée. Un Palestinien âgé de 29 ans a été tué par les forces de sécurité israéliennes ce matin dans un camp de réfugiés près de Bethléem, dans le sud de la Cisjordanie. La nuit dernière, des soldats visés par des cocktails Molotov et des tirs ont répondu et tiré à balles réelles. Six Palestiniens ont été blessés et l'un d'eux a succombé à ses blessures à l'hôpital. C'est ce qu'indique le ministère de la Santé palestinien. Et hier matin, une Palestinienne qui, selon l'armée israélienne, s'approchait avec un couteau d'un soldat près du camp de réfugiés palestiniens d'Al-Aroub, près de Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, a été abattue. L'armée israélienne poursuit ses opérations quasi quotidiennes après une série d'attaques en Israël. Le président tunisien a limogé 57 juges qui l'accusent de corruption. Kais Saied les accuse aussi de protéger des terroristes. Parmi les personnes limogées, Youssef Bouzaker, l'ancien chef du Conseil supérieur de la magistrature. Un conseil dont Kais Saied a remplacé les membres cette année alors qu'il prenait le contrôle du pouvoir judiciaire. Dans une allocution télévisée, le chef de l'État tunisien a déclaré qu'il avait donné occasion après occasion et avertissement après avertissement au pouvoir judiciaire pour qu'il se purifie, selon son propos. La Tunisie ou l'Union Générale Tunisienne du Travail a lancé un appel à la grève nationale. Ce sera le 16 juin prochain. Une grève dans les services et le secteur public. La centrale syndicale déplore le refus du gouvernement d'augmenter les salaires malgré l'inflation. Et cela arrive alors que le gouvernement tunisien tente de parvenir à un accord avec le Fonds monétaire international pour surmonter la grave crise financière dans laquelle le pays est plongé. Le gouvernement souhaite obtenir un prêt de 4 milliards de dollars auprès du FMI en échange de réformes impopulaires comme une baisse des subventions sur les produits alimentaires et l'énergie et des baisses de et des gels de salaire. C'est aujourd'hui et demain la fête de la radio. Il s'agit de célébrer ce média, initiative de l'ARCOM qui a succédé au CSA. Regard notamment sur la naissance des radios libres en France sous la présidence de François Mitterrand avec son ancien ministre de la Culture, aujourd'hui président de l'Institut du Monde Arabe, Jack Lang.
C'est après l'élection de François Mitterrand en 1981. À l'époque, les radios étaient exclusivement publiques, relevant du gouvernement, sauf certaines radios commerciales qui étaient des radios périphériques. Donc notre volonté en accédant aux responsabilités était de donner la liberté à des radios. Et à ce moment-là, se sont multipliées toute une série d'initiatives un peu partout en France, radio associative, radio qui ont apporté un ton nouveau, l'esprit nouveau. Donc c'était une véritable révolution, les radios libres dans les années 81-82.
Et cela a été un véritable apport pour la culture française.
Ça a été un apport pour la culture française dans beaucoup de domaines, dans le domaine musical en particulier, mais dans le domaine aussi du ton, du style, de l'esprit et de la liberté d'information aussi.
À l'occasion de cette fête de la radio, est-ce que vous pouvez nous faire part du lien que vous entretenez avec ce média ?
Oui, je continue à établir des liens avec certaines d'entre elles, certaines de ces radios. Plusieurs, malheureusement, sont devenues très commerciales et sont assez éloignées de l'esprit pionnier des années 81-82. Bon, en même temps, c'est une bonne chose que la France puisse assurer une variété d'expression, voilà, à travers les radios publiques et les radios non publiques.
Et quel regard portez-vous sur le déploiement de la radio numérique du DAB+ ?
Je crois que c'est un apport tout à fait décisif, à la fois en qualité et en possibilité technique d'expression.
L'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, aujourd'hui président de l'Institut du Monde Arabe, Radio Orient, s'associe bien entendu à la fête de la radio et vous remercie pour votre fidélité. Votre radio qui diffuse depuis le 17 mai ses programmes en DAB+, via la radio numérique à Tours et poursuit ainsi le développement de son réseau à un rythme soutenu. Ce nouveau déploiement porte le nombre de zones couvertes par Radio Orient à 33 secteurs en DAB+, 11 en FM. Radio Orient qui est l'un des plus importants réseaux actuellement en diffusion en DAB+, en France. Une grâce présidentielle en Égypte. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a gracié Yahya Abdeladi. Cette figure de l'opposition était détenue depuis 2019 pour diffusion, selon la justice égyptienne, de fausses informations. Ces derniers jours, la commission des grâces présidentielles a annoncé sur Twitter la libération de 12 prisonniers, dont certains en détention préventive depuis plusieurs années. Cela n'était pas arrivé depuis 20 ans. Un mouvement de grève aujourd'hui au sein du corps diplomatique français. Mouvement à l'appel de 6 syndicats et d'un collectif de 500 jeunes diplomates. Ils protestent contre la réforme de la haute fonction publique voulue par Emmanuel Macron, réforme qui aura des conséquences sur les carrières diplomatiques. Des rassemblements sont organisés devant le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à Paris et à Nantes, où se trouve le centre des archives diplomatiques. Le vote électronique pour les législatives s'est clos hier à midi pour les Français de l'étranger, mais le premier tour aura lieu dimanche prochain dans les consulats, une semaine avant les élections en France. Je vous propose d'écouter Aurélie Pirillot, candidate de la droite et du centre aux législatives, dans la 10e circonscription des Français de l'étranger en Afrique, Moyen-Orient et Océan Indien.
En fait, ma candidature aux élections législatives vient consacrer plus de 10 ans d'expérience à la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, où j'ai travaillé voilà, pour des parlementaires donc issus de cette commission. Et je voulais mettre mon expertise, mon expérience aussi sur le terrain, puisque dans le cadre de mes fonctions, j'ai organisé et participé à des délégations parlementaires un peu partout, au Moyen-Orient et en Afrique. Et je voulais vraiment mettre à profit des Français de l'étranger, donc cette expérience et cette expertise. Vous savez, j'ai constaté que les députés des Français et de l'étranger actuels ne se sont pas complètement battus ces dernières années pour les intérêts des Français et de l'étranger. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à apporter et à faire. Et c'est pour cette raison que je me suis présentée aux élections législatives.
Si vous êtes élue députée de cette circonscription, quelles seront vos priorités ?
Alors, déjà, la première des choses, c'est que je veux rétablir l'équité dans les différents budgets qui sont votés en faveur des Français de l'étranger. Ils ont été, ces dernières années, beaucoup trop délaissés, et notamment sur l'aspect éducatif, sanitaire et économique. Donc, ce que je veux, c'est déjà, moi, dans les différentes réunions et à l'Assemblée nationale, rétablir plus d'équité dans la répartition des budgets de l'État en faveur des Français de l'étranger. Parmi mes priorités, l'éducation. Je veux renforcer le système éducatif français avec des financements plus importants. L'AEFE, qui est l'agence d'État qui régit tous les établissements français à l'étranger, s'est vu ces dernières années avoir des coupes budgétaires records, notamment en 2017 de 33 millions d'euros. Ce que je veux, moi, c'est redonner plus de budget à nos écoles. Ce que je veux aussi, c'est renforcer le statut des professeurs français expatriés, pour qu'il y ait des professeurs non seulement français, mais surtout qualifiés dans les établissements scolaires à l'étranger. Ce que je veux également, c'est renforcer les budgets alloués aux bourses scolaires et revoir les critères d'éligibilité de ces bourses. Malheureusement, l'école française est encore beaucoup trop élevée en termes de coûts pour les familles, surtout si vous avez plusieurs enfants. Donc il faut vraiment mieux accompagner les familles de classe moyenne pour qu'elles puissent toutes accéder à nos établissements français de l'étranger. Ensuite, ma deuxième priorité sera la santé. Je veux que le système de la Caisse des Français de l'étranger évolue pour vraiment protéger nos Français en termes de sécurité sociale. Il est ramené vers le système de sécurité sociale métropolitain, pour plus qu'il n'y ait de différence entre les Français métropolitains et les Français établis hors de France. Je veux aussi redonner beaucoup plus de soutien et d'accompagnement à nos entreprises françaises, mais pas que nos entreprises françaises, aussi aux EFE. Aux EFE, ce sont les entreprises créées et gérées par des Français de l'étranger, mais qui sont sous statut de droit local dans le pays dans lequel ils résident. Ils sont complètement écartés des dispositifs d'accompagnement et d'investissement du ministère de l'économie français, et je veux les ramener dans ces politiques d'aide et d'accompagnement. Et puis, il y a la question aussi des consulats. Malheureusement, les ambassades et les consulats sont de moins en moins accessibles. Et beaucoup de Français de l'étranger doivent subir des délais très importants dans leurs différentes démarches administratives. Et je veux revoir ce système de consulat pour faire en sorte qu'elles deviennent de véritables mairies, pour simplifier les démarches administratives de nos concitoyens, mais aussi réduire les délais. Voilà, après, je fais une place aussi assez importante à l'écologie dans mon projet, et à l'aide et à l'accompagnement aux Français et de l'étranger, notamment les victimes de catastrophes naturelles, de catastrophes économiques. Je veux aussi aider les Français de l'étranger à mieux pouvoir remonter les informations à leur ministère. Je veux devenir, plus que leur porte-parole, je veux être la personne accessible qui puisse les aider en cas de grosses difficultés. Donc je tiens vraiment à être une députée proche des gens, accessible. Je donnerai mes coordonnées et surtout, je tiendrai une permanence parlementaire tous les vendredis pour pouvoir être en contact permanent avec nos compatriotes.
Aurélie Pirillo, candidate de la droite et du centre aux élections législatives dans la 10e circonscription des Français de l'étranger en Afrique, Moyen-Orient et Océan Indien. Elle répondait à Loïc Barrière. Le président de l'association Les Oranges, Mohamed Kaki, organise demain une conférence à Nanterre autour de cette question. Législative 2022, faut-il voter? À l'origine de cette question, la déception, selon lui, des habitants des quartiers populaires sur la question des investitures des candidats de l'Union populaire. Mohamed Kaki.
Il y a une déception générale dans les quartiers populaires, contrairement au premier tour des élections présidentielles qui avaient vu les quartiers populaires voter massivement, d'ailleurs en faveur du candidat Mélenchon. Nous sommes très inquiets cette fois-ci, pour une raison, c'est que les gens ne voient pas très clair les choses, c'est-à-dire que les législatives, d'abord, il y a une nouvelle alliance à gauche qui pose question. Et puis surtout, la question, c'est voter pourquoi faire. Est-ce que beaucoup de gens se posent la question de la question du travail, du logement, de la culture, des discriminations, de l'environnement, des choses qui ne sont toujours pas réglées. Et d'autant plus que lorsqu'on voit les choses de plus près à la loupe, beaucoup de leaders des quartiers populaires ont été évincés des circonscriptions, et en particulier les circonscriptions gagnables. Donc on se dit qu'on est en train de revoir un film qu'on avait déjà vu dans d'autres élections au régional et d'autres, où à chaque fois les Français héritiers des quartiers populaires sont injustement écartés au profit de gens que l'on considère plus légitimes. Et donc, vous voyez, c'est assez compliqué parce que d'un côté, on demande aux gens de se mobiliser, parce qu'il faut de la mobilisation collective, et d'un autre côté, eh bien, il n'y a pas de signe, je dirais, positif qui pourrait donner envie d'y aller. D'autant plus que on ne voit pas non plus des débats, on voit simplement des tambouilles ici ou là, des gens à haut niveau s'accorder entre eux, qui étaient fâchés avant-hier et qui sont aujourd'hui à coquiner, ça y est, ils ont oublié le passé, ils ont oublié tout ça. Donc que ce soit à droite ou à gauche, on n'y voit pas clair. Et donc nous, légitimement, l'association Les Oranges, notre but évidemment, c'est qu'il y ait un nombre de gens massivement qui aillent voter, parce que voter d'abord c'est un devoir, et c'est important, et puis c'est important de, je dirais, comme dirait Abdelmalek Sayad, exister, c'est exister politiquement, et donc voter c'est important. Mais ce n'est pas une mince affaire, parce que tout simplement, eh bien, on voit une démobilisation. Et donc, nous, on va tenter de faire un débat qui mobilise. Parce que le débat, ce qui est important, c'est d'écouter les gens et de dire, bah voilà, moi, je vais aller voter. Moi, je ne veux pas voter parce que je suis déçu. Moi, ceci, moi, cela. Moi, est-ce que ce que l'on entend dans la rue, en fait, hein, quand on se balade dans les quartiers populaires, on se dit, oh, finalement, les gens disent quoi? Ils disent cette chose suivante. Est-ce que, finalement, ça va arranger ma vie? Est-ce que mon fils va trouver un boulot? Est-ce que je vais pouvoir me soigner les dents? Par exemple, il y a quelque chose d'extrêmement grave et vraiment ulcérant dans les quartiers populaires, c'est un truc simple, la santé. Se soigner les dents aujourd'hui, ça coûte énormément cher et il faut véritablement, justement, une loi, quelque chose, un signe très fort qui nous dise qu'aujourd'hui, si demain on vote pour tel ou tel candidat, eh bien, nos vies vont changer radicalement. Alors voilà pourquoi nous faisons cette magnifique rencontre avec, justement, et c'est très important, avec des acteurs des quartiers populaires. Parce que là, il ne s'agit pas d'aller chercher des, je dirais, des chercheurs en sciences sociales et qui ont, je dirais, bac plus 125. Non, là, ce sont des militantes et des militants. Il y a deux femmes, deux hommes, et qui vont donc Omar Slaouti, Naïma Selam, Aïssa Terchi, Yamina Grosjean, qui sont tous et toutes engagés depuis de très nombreuses années sur le terrain et qui mouillent leurs chemises et qui avec lesquels on va avoir un véritable échange franc, massif sur ces questions de faut-il voter pour que effectivement les gens eh bien, ils soient suffisamment outillés, et puis surtout qu'on redonne l'envie, le désir, je dirais, de participer, de faire une participation citoyenne, à condition qu'il y ait du débat. Mais moi, je ne vois pas beaucoup de débats chez les candidats, dans les circonscriptions. Et puis, il y a une injustice. Je vais vous dire la vérité aussi, parce que qu'est-ce qui nous a poussé à ça aussi? Parce qu'en réalité, on n'était pas trop chaud pour l'organiser. Et puis, on s'est dit, dans l'association, il y a des injustices. Des véritables injustes, et il y en a une vraiment terrible, c'est l'injustice face à un candidat qui a toute sa légitimité, qui est le candidat Azdine Taïbi, Astin, qui a une légitimité. Voilà un monsieur qui investit depuis plusieurs décennies, qui est maire, qui etc., et il n'a pas été choisi par l'ANUPS, alors même qu'il est, je dirais, vice-président de cette organisation, donc l'Assemblée populaire, alors même qu'il a montré par son travail sa légitimité importante. Et là, vraiment, c'est une injustice, c'est une preuve flagrante, je dirais, la preuve par Asdine qu'on nous méprise.
Le président de l'association des Oranges, Mohamed Kaki, et la conférence qu'il organise aura lieu demain à Nanterre. Mohamed Kaki répondait à Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de cette émission, que peuvent faire les États-Unis face à la multiplication des tueries de masse. Alexis Bachelet recevra André Caspi, historien spécialiste des États-Unis, et Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université Paris 2 à Assas. À 12h30, votre journal en langue arabe vous sera présenté par Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash. 17h30 pour votre journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est 12h19.